Bonjour Marine Perrin.
Bonjour.
Alors, tu es journaliste et réalisatrice. Pour revenir un petit peu sur toi et ton parcours, tu as d'abord fait une licence de lettres, puis une école de journalisme à Marseille. Et donc ensuite, tu as exercé dans le journalisme, puis tu es venue à la réalisation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'est passé ce tournant vers la réalisation ?
Oui, bien sûr. En fait, je travaillais dans les médias traditionnels et c'est à la faveur, en fait, d'une période de chômage que j'ai lancé ma chaîne YouTube qui s'appelle Marinette Femmes et Féminisme et où j'ai expérimenté, en fait. Je faisais des vidéos qui allaient du mini-documentaire à l'édito, au vlog. C'était un peu mon laboratoire d'expérimentation. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai eu des opportunités et notamment l'opportunité de faire mon premier docu qui est traqué. Et voilà. Et maintenant, j'ai un peu un pied dedans et j'aime beaucoup faire du documentaire.
On retrouve justement sur ta chaîne des formats documentaires, tu as évoqué tout de suite Traqué, donc un documentaire sur les cyberviolences conjugales que tu as réalisé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce terme de cyberviolence conjugale avant tout ?
Oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, quand on en parle, les gens ne voient pas bien de quoi il est question et évoquent le harcèlement. Alors ça peut être du harcèlement, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça. C'est toutes les manières dont les violences conjugales se poursuivent avec les nouvelles technologies ou se font avec les nouvelles technologies. Parce qu'en fait, les violences conjugales, c'est certes des violences physiques, sexuelles, ça on a tendance à beaucoup les identifier à ça, mais c'est aussi des violences psychologiques, un contrôle et une surveillance du conjoint violent sur sa victime qui est permanent. Et les nouvelles technologies, ça a permis encore de monter un cran dans ce niveau de contrôle et de surveillance. Donc ça va être effectivement du harcèlement, ça peut être appeler la personne toute la journée pour savoir ce qu'elle fait, où elle est, etc. Ça peut être la priver de moyens de communication, donc lui prendre son téléphone pour qu'elle puisse plus communiquer avec personne. Ça peut être aussi la filmer, ça peut être aussi la géolocaliser. Encore une fois, tout comme les violences conjugales, entre guillemets classiques, ça peut aussi se poursuivre après la séparation, et c'est même ce moment qui est dangereux et qui peut permettre à l'ex-violent de continuer à exercer des violences. Ça peut être aussi des violences administratives, priver la personne de revenus parce qu'on a accès à ses comptes. Toutes ces nouvelles technologies, elles permettent d'exercer énormément de violences, et du coup, c'est un peu là-dessus que le film se penche, tout en gardant à l'esprit que c'est les mêmes mécanismes. Et ça, c'est hyper important, que c'est les mêmes mécanismes que les violences conjugales, encore une fois, entre gros guillemets, classiques, mais qui s'appliquent avec un nouvel outil.
Et justement, tu parles de mécanismes des violences conjugales, ça me fait penser à un moment dans le documentaire où on te voit expliquer le cycle des violences. Est-ce que tu veux bien nous expliquer justement ce cercle des violences conjugales ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est un outil qu'utilisent beaucoup les travailleuses sociales, les personnels de terrain, pour identifier quand une victime se trouve dans une situation comme ça, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez quasiment toutes les victimes de violences conjugales, et c'est un cycle dans lequel elles sont enfermées. Ça commence par une montée en tension, c'est-à-dire que c'est un moment où, dans le couple, dans le foyer, la tension monte. Et en général, le conjoint commence aussi à faire des reproches à la personne, etc. Ce qui fait que dans sa tête, ça va commencer à justifier les violences qui vont advenir ensuite. À un moment donné, quand la tension est trop forte, ça explose. Donc là, il y a des violences qui peuvent être donc des violences physiques et sexuelles auxquelles on pense en premier, mais aussi des violences psychologiques, des crises de colère, etc. Ensuite, parce que ça, c'est quand même souvent perçu comme étant impardonnable, il y a une phase de justification. Donc c'est jamais la faute du conjoint violent. C'est parce que soit c'est pas du tout parce que il était lui-même. Alors par exemple, il est trop stressé, il était sous. C'est pas de sa faute. Voire, on retrouve souvent aussi des cas où il inverse la responsabilité. C'est parce que elle l'avait énervé, elle avait mal fait un truc. Il y a tout un panel de reproches possibles et ça répond à la fameuse première phase où il fait des reproches. Et puis ensuite, il y a la phase de lune de miel, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire une phase où la tension s'apaise complètement, le conjoint violent redevient très sympa et même adorable, entre guillemets, c'est-à-dire que ça va être des compliments, des cadeaux, des excuses, ce qui fait que la victime part pas, parce que sinon, s'il n'y a que des violences, c'est plus facile de partir et de se rendre compte. Là, en fait, c'est « Ah oui, mais voilà, c'était un dérapage, en fait, il est comme ça. » Et donc, en fait, quand les femmes victimes de violences conjugales vont voir des travailleuses sociales, souvent, les travailleuses sociales leur font prendre conscience qu'elles sont dans ce cycle-là, qui se répète tout le temps. Et ça m'a paru hyper important d'en parler dans le documentaire, parce que c'est comme ça qu'à mon sens, on va tous et toutes comprendre ce que sont les violences conjugales, être à même de les identifier, être à même de voir ce cercle vicieux littéralement. Et c'est comme ça souvent que des victimes s'autorisent à se dire qu'elles sont victimes.
Comment t'es venue l'idée de réaliser ce documentaire sur ce thème-là en particulier ? Est-ce qu'il y a eu un point de départ ?
Oui, il y a eu un point de départ. En fait, je travaille pour le Centre Hubertine Auclert ponctuellement, qui est le Centre pour l'égalité femmes-hommes d'Île-de-France, et qui est un observatoire, l'Observatoire des inégalités, qui sort des rapports extrêmement complets de chercheuses régulièrement. Et puis, elles me disent, en ce moment, on travaille sur les cyberviolences conjugales. Et ça, elles me disent ça en 2018, je pense. Et je fais, OK, c'est quoi ? Enfin, et elles m'expliquent. Et bah, je trouve ça incroyable. Vraiment, j'en avais jamais entendu parler, quoi. Et je dis, mais c'est incroyable, faut en faire un docu. Et sauf que bah bon bah moi à ce moment-là j'ai ma chaîne YouTube mais j'ai rien d'autre hein, donc voilà. Et puis c'est un an plus tard qu'une amie me dit ah il y a une résidence YouTube, vas-y postule, viens avec moi et tout. Je fais ouais, je sais pas, bon d'accord, et je postule et donc je suis prise à la résidence. Au terme de cette résidence, on pouvait gagner une petite bourse. Je dis petite, à l'époque ça me paraissait énorme parce que c'était 15 000 euros. Mais quand il s'agit de faire un film, 15 000 euros, c'est petit, c'est vraiment très petit, mais qui m'a permis de réaliser le film, de payer au moins ma chef opératrice, ma monteuse, moi, mon compositeur, mais avec un budget qui permet de le faire et en même temps qui est, faut le dire, restreint. Je ne voudrais pas laisser entendre que c'est normal de faire des films avec 15 000 euros, voilà.
Dans le documentaire, on voit ta phase de recherche, notamment de recherche de témoignages, ton appel sur Twitter. Et tu as inclus ça dans le documentaire, justement, ces procédés d'enquête, de recherche, des moments de discussion aussi avec des amis sur ce thème des cyberviolences. Qu'est-ce que ça apporte au documentaire de voir un peu les backstage ?
En fait, précisément parce que comme on entamait cette discussion par « c'est quoi les cyberviolences conjugales ?», je me disais « ah, à expliquer ça, c'est pas simple. Comment je pourrais faire pour que les personnes comprennent sans que ce soit pénible à regarder ?» Et comment je pourrais faire pour expliquer aussi le procédé de comment ça avance, comment la démarche avance en fait. Parce que ma propre enquête m'apprenait des choses, hein. J'étais pas du tout au courant de tout en commençant le documentaire. Du coup ça c'est ce qui a donné lieu au procédé de « je fais des discussions avec mes amis ». Donc ça m'a permis de leur dire « ouais, est-ce que c'est à peu près les cyberviolences conjugales ?» Non, on échange, on fait des blagues, mais du coup, je pense que ça permet aux spectateurs et aux spectatrices de se sentir inclus à ce moment-là et de dire « ah oui, d'accord, ok, c'est ça ». Et puis, ça, c'était assez inattendu. Mais j'ai mon amie, quand j'explique le cycle des violences, qui se reconnaît, en fait, à ce moment-là, dans ce cycle. Et ce moment-là, j'ai vraiment voulu le garder au montage parce que je me disais, bah voilà, ça, c'est la vertu de cet outil-là. Ça permet que des personnes se reconnaissent.
Et pour revenir un peu aux personnes qu'on retrouve dans ce documentaire, il y a plusieurs femmes victimes, Charlène, Mathilde, Valentine, Emma, notamment avec à chaque fois des cyberviolences à différents niveaux et parfois des choses vraiment extrêmes. Notamment, il y a l'exemple de Charlène qui m'a vraiment marquée, où son conjoint violent lui demande de filmer vraiment chaque trajet. Et voilà, dès que son pull dépasse, cache la caméra, lui fait le reproche et tout de suite l'accuse. Voilà, donc c'est des scènes assez percutantes et c'est des exemples vraiment forts. Et on retrouve aussi des hommes qui ont été auteurs eux-mêmes de cyberviolence. Et je voulais aussi questionner un peu ça avec toi. Pourquoi c'était important d'avoir vraiment ces deux aspects-là ?
En fait, je l'avais même pas, j'avais même pas pensé. Quand j'ai fait l'appel à témoignage, je cherchais des victimes. Et en fait, c'est des hommes qui spontanément se sont proposés pour raconter ce que c'était que d'être auteur. Et alors moi, j'y suis allée avec précaution, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, je veux pas de quelqu'un qui va se justifier. Donc j'ai vraiment fait attention au téléphone, parce qu'on fait toujours des pré-entretiens hein, avant d'y aller, de voir un peu quelles étaient leurs motivations et quelles étaient leurs explications aussi. Parce que l'explication, au fond, c'est le contrôle, la possession. Et je voulais que ce soit des personnes qui soient capables de le dire, en fait. Mais rien que la démarche de m'avoir contactée pour témoigner faisait que c'était pas mal ce genre de personnes. Et donc du coup, oui, effectivement, deux hommes ont accepté de m'expliquer leur démarche et leur démarche de témoigner, pourquoi ils voulaient le faire. Donc c'était pour informer sur la question, pour sensibiliser. Donc pour moi, ça me paraissait être une démarche très saine. Et puis, était ouvert au fait de me dire en toute transparence ce qui les animait à ce moment-là. Et je trouvais ça hyper intéressant. Pareil, pour moi, c'est une facette de l'information sur les violences conjugales.
Justement, tu as commencé à l'aborder un petit peu tout à l'heure, le concept de violence administrative. Et notamment, on te voit à un moment donné rencontrer Marine, qui est travailleuse sociale dans le documentaire, qui accompagne les femmes victimes de violences dans toutes ces démarches. Et je voulais revenir avec toi là-dessus sur les façons dont le conjoint, même après l'avoir quitté, peut garder une emprise sur la femme victime de violences.
Oui, parce que c'est pareil, ça, on n'en parle pas souvent comme étant des violences, parce qu'encore une fois, c'est pas des violences physiques, et du coup, on l'imagine même pas. Et d'ailleurs, c'est condamné sous certains chefs d'accusation, mais en tout cas pas sous le terme violence conjugale administrative, quoi. Alors que c'est une forme de contrôle bon, hyper grave, hyper puissante, hyper forte, parce que les violences administratives, ça peut être pareil, priver la personne de ses papiers, priver la personne de ses revenus, parce que par exemple, si on lui prend son compte en banque, qu'on change les codes d'accès, que la personne n'a plus accès au compte en banque, qu'on change les formulaires pour la CAF, pour les aides sociales, et que la personne n'a plus accès à ces formulaires, tout ça qui est amplifié par le fait que l'État est très peu réactif sur ces choses-là, c'est aussi pour ça que les travailleuses sociales font un travail hyper important. Il ne faut jamais oublier de leur rendre hommage. Et Marine, effectivement, elle raconte des anecdotes dans ce documentaire qui sont complètement irréalistes. Des hommes qui refusent le divorce pour par ego, voilà, alors qu'ils sont séparés, qu'ils refont leur vie, mais qui posent, c'est quelque chose qui pose problème à la personne victime. Des hommes qui changent le compte CAF, etc. Et le problème, c'est que une femme victime, même qui s'en est sortie, si on la prive de ses revenus, si on la prive de ses papiers, en fait, c'est son autonomie. L'indépendance économique, les travailleuses sociales sont les premières à le dire, c'est le truc le plus important quand on arrive à sortir des violences. Plus on les prive de cette indépendance-là, plus il y a un risque qu'elles reviennent dans les violences, c'est-à-dire qu'elles retournent auprès de leur conjoint violent, et c'est pour ça que c'est une façon de les garder aussi et de les contrôler.
Et le traitement juridique est aussi abordé dans ton documentaire, et je voulais revenir avec toi aussi là-dessus. Comment on peut expliquer que ces violences, les cyberviolences, ne soient pas encore vraiment condamnées, suffisamment condamnées, et qu'est-ce que ça dit aussi du système juridique actuel ?
Là, pour le coup, quand on en parle encore une fois aux travailleuses et travailleurs sociaux, ils sont... Alors pour le coup, les cyberviolences, ils nous disent « Attendez, nous déjà, on essaye de faire condamner les violences tout court et c'est déjà pas gagné, quoi. » On le sait, hein, souvent, un homme violent, il est acquitté, la plainte n'est pas prise, la plainte est classée sans suite. Quand il est condamné avec sursis. Enfin, déjà partant de là, on se dit bien que les cyberviolences, ça va encore être un stade en dessous. Et en plus, il y a parfois même pas les délits dans le code pénal qui existent. Ou alors, le code pénal les atténue parce que c'est le conjoint. Par exemple, le vol entre conjoints n'existe pas. Donc, dans ce cadre-là, on peut pas se dire que le fait de prendre son téléphone est un vol. Ça, c'est pas condamnable. Voilà, il y a des choses comme ça qui font que c'est moins condamnable, alors que dans tous les autres cas de violence, le fait d'être, que ce soit son conjoint, c'est une circonstance aggravante. Là, ça va être l'inverse. Il existe quand même le délit de revenge porn, le fait de diffuser des images intimes qui ont été prises après ou pendant la relation. Donc ça, c'est un délit spécifique, mais c'est le seul qui existe et qui correspond un petit peu à la définition de cyberviolence conjugale. Sinon, c'est d'autres délits un peu disséminés dans le code pénal comme ça. Mais honnêtement... les victimes, je pense, ne pensent... Si elles ont été victimes de violences conjugales, déjà, on va essayer de faire condamner les violences physiques et sexuelles. C'est déjà pas gagné. Et puis, on le sait, hein, elles sont dissuadées de porter plainte très souvent. Elles ont peur d'y aller. Elles ont peur d'être confrontées à leur agresseur, etc. Donc, malheureusement, c'est sûr que moi, dans le documentaire, c'est un peu le néant, la partie juridique, parce que, on est encore loin qu'il se passe quoi que ce soit, quoi. Et à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de jurisprudence sur la question. Voilà.
On l'a vu, le numérique dans le cas des cyberviolences fait grandement défaut aux femmes qui en sont victimes, mais le numérique peut aussi se mettre au service de cette cause, puisqu'on voit notamment, à un moment donné dans ton documentaire, tu rencontres des membres de l'association En Avant Toutes, une association qui répond par chat aux femmes victimes de violences. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres initiatives, d'autres manières d'utiliser le numérique pour lutter contre ces cyberviolences.
Mais en fait, oui, c'est en ça que je dis le numérique, c'est qu'un outil et c'est pas quelque chose qu'ils font condamner en soi. Moi, je voulais vraiment que ce documentaire, les gens en ressortent pas en disant, les boomers en ressortent pas en disant, les jeunes avec leur téléphone, s'il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y aurait pas ça. C'est faux. Les violences conjugales, elles ont toujours existé. Et quand c'était pas le numérique, ils prenaient les papiers, quoi. Donc c'était important pour moi de pas condamner l'outil, d'autant plus que. Et il y a une victime qui le dit dans le documentaire, ça lui a plus apporté que ça ne lui a nui, parce que elle m'a dit que c'était grâce à ça grâce au numérique, grâce à Internet, qu'elle s'est instruite sur les violences conjugales et qu'elle s'est reconnue et que ça lui a permis d'en sortir. C'est aussi effectivement des choses très techniques comme En Avant Toutes qui utilisent le chat. Je reviens là-dessus parce que maintenant elles se sont ouvertes au-delà des violences conjugales. C'est un peu toutes les violences intrafamiliales, même les victimes d'inceste viennent les voir, etc. Viennent leur parler sur le chat. Et en fait, un chat, c'est très très pratique parce que bah, c'est silencieux. C'est quelque chose qu'on peut faire sur le téléphone. Le site, il est vraiment pensé pour pas apparaître dans l'historique ou pour avoir un nom un peu... Il n'y a pas écrit stopviolenceconjugale.com, quoi. Il est vraiment pensé pour pouvoir être quitté rapidement. Par exemple, pendant le confinement, bah, c'était d'une aide précieuse parce qu'on sait que les violences conjugales, elles ont explosé pendant le confinement et on ne va pas appeler la police quand on est dans le même endroit que son bourreau. Pas devant lui. Donc le chat, dans ces cas-là, c'est hyper précieux. Et puis, il y a une initiative qui est... Alors, c'est en anglais. Parce qu'en fait, dans le monde anglophone, on parle aussi des stalkerware. Les stalkerware, c'est des logiciels qui sont à la base théoriquement créés pour que... alors déjà, c'est un peu douteux comme usage de base. C'est-à-dire pour que des parents puissent... surveiller entre gros guillemets leurs enfants ou des patrons leurs employés. Donc déjà il y a un côté pas terrible clairement, mais de toute manière on voit que ces outils là ils sont largement détournés pour nuire aux femmes, parce qu'en fait c'est des logiciels espions qui s'installent très facilement sur les téléphones, qui sont invisibles, dont personne ne peut se rendre compte qu'ils sont là et qui géolocalisent, envoient les photos, envoient les conversations, envoient tout quoi, dupliquent ce qui se passe et qui sont indétectables. Et du coup il y a une coalition d'entreprises de technologie qui se sont alliées avec des organismes qui militent pour les droits des femmes dans le monde anglophone, et ça c'est la Coalition Against Stalkerware, quelque chose comme ça, la coalition contre les stalkerware, ces logiciels de stalking littéralement. Et voilà, et donc c'est des initiatives comme ça aussi qui sont pas mal, c'est-à-dire on va commencer à... On réfléchit vraiment à ces questions-là et ça commence à rentrer dans le débat public. Et on l'a vu il n'y a pas très longtemps avec cette histoire de Apple qui sort ce porte-clés géolocalisable, je ne sais plus si c'est un porte-clés, un petit outil là, géolocalisable, qui est donc l'outil parfait à glisser dans un sac à main pour stalker quelqu'un, quoi. Donc c'est un peu, ça c'est, j'étais revenue au côté un peu négatif, mais c'est aussi toutes ces choses-là, toutes ces initiatives-là qui permettent de s'en sortir. Moi je pense sincèrement, c'est ce que je dis dans le documentaire, que ce qui permet de s'en sortir c'est beaucoup l'information, le fait de prendre conscience, de comprendre les mécanismes, de se dire voilà, ça me concerne et tout, et les nouvelles technologies, pour ce qui concerne l'information et la communication, c'est un outil extrêmement précieux, quoi. C'est aussi à mettre au service des femmes, c'est pas à condamner.
Merci beaucoup à toi, Marie.
Merci beaucoup à toi. Merci.